réunion précédente, ça va ?
Tout ça va.
Permettez-moi de m'étonner, je pense qu'il y a un aspect qui aurait dû inviter les uns les autres à avoir des explications. Quand j'ai juste évoqué la chose assez particulière que tenait au point de vue propos Jewalkul, à savoir qu'il n'était pas conseillé les unions entre les blancs et les noirs.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors je m'étonne que devant votre réaction en première lecture de la dernière fois, que vous n'ayez pas... voilà. Alors, je vais juste apporter la précision suivante. Vous savez que il y a un karma individuel, qu'il y a un karma de famille, qu'il y a un karma de pays, qu'il y a un karma de sous-race, qu'il y a un karma de race. Je ferai simplement la parenthèse en vous invitant à comprendre que la race noire, compte tenu de ce qu'elle a eu à vivre en retour, enfin la sous-race, c'est parce qu'en son temps, elle a eu un comportement relationnel humain cruel et agressif sur les autres sous-races qui émergeaient.
Pourquoi et, la différence entre race et sous-race ?
Ben, nous sommes dans la cinquième race. Mais la cinquième race va développer ses sept sous-races.
Ah, ok. Mm-hmm.
Ah, oui, les races correspondent à quoi ? Aux règnes ?
Aux rondes. Non.
Rondes.
Rondes. Ouais. C'est-à-dire que la cinquième race a sept sous-races. La quatrième également. Ils ont des. C'est-à-dire que est développée, en fait, l'influence des sept rayons. Donc nous sommes dans la cinquième race, la quatrième était la race Atlante, mais dans la cinquième race, eh bien, il y a les sept sous-races, et quand il y a eu la race noire, eh bien, quand la sous-race noire, n'est-ce pas, elle fut cruelle, au point, je vous renvoie à la désertification de l'Afrique. Hein, le Sahara était aussi verdoyant que est l'Europe aujourd'hui.
Et donc c'est un effet karmique.
Oui, alors, ouais. Comprenons la chose. Il faut l'appréhender en tant qu'être. La race noire assume ses retours karmiques. Et le fait que vous rentriez dans une famille... De fait de l'union, hein, je parle au niveau de l'individu qui rentre dans une famille, et eh bien d'une certaine façon, il s'unit au karma de la famille. Vous comprenez ? Et à partir de là, eh bien, les blancs, en ayant des unions avec l'aspect famille noire, eh bien, ils se retrouvent à porter des contextes difficiles karmiques. Donc ce n'est pas conseillé. C'est sous cet aspect-là, vous comprenez ? Et d'autant que s'il y a des enfants, vous obligez des êtres à choisir ce parcours.
Tout à fait d'accord. Enfin,
chacun est libre.
Quelque chose. Ben non, mais je veux dire, il peut y avoir un contexte aussi où quelqu'un rentre dans une famille pour aider la famille, oui. Etc. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant dans tout ce qu'il dit. Ça voudrait dire implicitement que quand on s'incarnerait toujours à peu près dans un même contexte familial, toujours dans un même complexe national, toujours dans un même complexe continental, etc. Ce qui d'après ce qui enfin, si on croit par exemple Edgar Cayce ou n'importe quoi ce qu'il raconte, il peut y avoir des gens qui se sont incarnés dans un endroit et ensuite dans un endroit, etc. Hein, justement pour faire tout un tas d'expériences. Donc c'est pour ça que moi je mettrais beaucoup de bémol dans
mais l'acceptation. Ce que j'explique pour la compréhension du propos de Jewalkul, c'est une explication d'ordre général. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais d'une façon générale, son propos, c'était bien de dire c'est pas une bonne chose. Parce que ça va peut-être obliger des êtres à choisir cela. Alors, je vais changer le sujet, mais je pense que c'est pour éclairer la chose. Aujourd'hui, le non-équilibre de l'aspect sexuel qu'on évoquait la dernière fois, eh bien, fait que beaucoup, en fait, d'âmes sont obligées de venir alors qu'elles ne sont pas prêtes. Bon, et c'est ce qui fait que cet aspect-là, bah, comme on dit, le laxisme qu'il y a actuellement sur cet aspect fait que bah, il y a un flux en fait d'individus sur la Terre, au sens où l'augmentation est considérable, mais une grosse partie du problème vient de ce que il y a eu ce comportement complètement déséquilibré au niveau du sexe. Et donc des âmes, donc des êtres qui étaient dans leur cycle là-haut de préparation pour une nouvelle venue, eh bien se trouvaient, comme on dit, précipités dedans. Et c'est ce qui fait, si on regarde un peu notre pays, c'est ce qui fait que on peut être surpris dans normalement ce qui est l'évolution du peuple français, bah, de voir en fait aujourd'hui des jeunes dont le comportement est assez décalé par rapport à l'ensemble. Et qui sont complètement des astraliens, c'est-à-dire qu'ils sont encore avec des comportements complètement... Bon, pas d'autres aspects. Alors, nous appréhendons aujourd'hui la compréhension des qualités divines aux fins de leur intégration à notre niveau. Alors, il y a une question fondamentale que devrait se poser n'importe quel être en aspiration spirituelle, à savoir celui qui donne la vie à la planète, que l'on appelle le Père. Qu'est-ce qu'on peut en saisir de ses qualités? La réponse, je pense, viendra logiquement de dire « Il est pour nous un absolu de beauté, de pureté, de perfection et d'amour ». Est-ce que cela vous apparaît simple en référence?
Trop simple.
Trop simple.
C'est ce qu'on sait.
Alors, si on dit trop simple, on va dire la conséquence est alors encore beaucoup plus simple, à savoir qu'est-ce qu'on attend humblement pour lui ressembler. Ce qui est affolant, c'est de voir à travers le monde des croyants, peu importe la religion, qui ont une vue de ce qu'ils appellent le Père, qui est absolument à 100 lieues de ces aspects divins.
Est-ce qu'on les met sur le dos, hein?
Au nom du Père, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Alors d'un côté vous avez s'ils ne sont pas baptisés ils iront en enfer, hein. De l'autre côté, Allah a dit, alors. Ouais. les qualités sont liées essentiellement à l'aspect conscience et en conséquence à l'âme. Pourquoi avoir cette recherche de ces qualités? Nous savons que le Père, celui qui s'est incarné en la personne de Sanat Kumara il y a 18 millions d'années, l'âme de l'homme céleste est sur le plan monadique, deuxième sous-plan du plan physique cosmique. Et nous trouvons sur ce plan monadique les racines de vie humaine et dévique. En conséquence, si l'on sait que le Père attend depuis sa venue sur le plan physique cosmique avec patience qu'on aime ses lois, or ses lois, c'est la nature même de son être. Si l'on porte notre regard sur le Père qui lui est au-dessus en évolution et qu'on appelle le Logos solaire, nous allons pouvoir cerner la nature des qualités de ces grandes vies. Les influences de ces grandes vies se traduisent par ce qu'on appelle les rayons. Et ces flux d'énergie sont exprimés par des vies qui ont choisi dans leur évolution d'exprimer les lignes de rayon. En d'autres termes, à partir des centres célestes solaires que sont les centres planétaires. Quand je dis centres planétaires, je fais référence à la fois à la planète, mais aussi à ses corps subtils. Un seigneur de rayon va donc être le pur représentant d'un logos planétaire. On va limiter notre étude aux confins du système solaire, mais bien évidemment, on parle de rayons solaires comme on peut parler de rayons cosmiques. Hein, il n'y aura simplement qu'à faire la translation à une autre échelle. Hein. Alors, vous avez le logos solaire, dont nous savons qu'il a une racine de vie, qui est appelée soleil spirituel central, une âme qui s'appelle le cœur du soleil, et un corps de manifestation qui est le système solaire. Avec un atome permanent, le soleil physique. Nous sommes dans le deuxième système solaire. Ce long cycle va surtout développer, épanouir le deuxième aspect de la divinité, à savoir la conscience.
Le premier.
La forme. L'aspect mère, matière.
Depuis quand on est dans le deuxième système solaire ?
Nous sommes à peu près au milieu de son cycle. Puisque ce système solaire est du quatrième ordre. Et par conséquent, cela signifie dans le cycle qui a toujours sept cycles secondaires, nous sommes dans le quatrième, c'est-à-dire qu'il est directement au contact du plus bas matière. Chaque corps planétaire, donc chaque logos planétaire, va exprimer une qualité majeure en ayant toutefois les qualités des autres. Ce qui veut dire qu'un rayon a toujours ses 6 sous-rayons. Mais tel rayon a un aspect qui lui est dominant par rapport à l'ensemble. Ouais, je vous rappelle, bon, les rayons, vous savez, premier rayon, puissance, pouvoir, deuxième rayon, amour, sagesse, troisième rayon, intelligence, quatrième rayon, harmonie, hein, cinquième rayon, connaissance concrète, sixième rayon, dévotion, idéalisme, et septième rayon, l'ordre cosmique. Bon, donc ça veut dire, si vous voulez, que ces acteurs célestes, quand ils entrent en influence, ils développent, ils apportent cette qualité à la vie qui se place ou s'est placée sous ces influences. Étant entendu que chaque vie a, comme toute vie, à épanouir d'abord ses véhicules de manifestation, donc la forme, pour permettre d'exprimer la conscience, et ensuite que la vie en question amène sa manifestation, son expression à être la réflexion authentique de sa source. J'ai J'explique. Chaque vie humaine, chaque vie planétaire, chaque vie solaire, et ainsi de suite, avec toutes, je dirais, les intermédiaires, hein, mais c'est pour ne pas brouiller la compréhension, chaque vie qui vient en manifestation a un dessein. Nous, en tant que vie, nous venons pas, comme on dit, pour faire du tourisme, hein, du genre, ça me plaît de... En tant que vie, nous avons un dessein. Et ce dessein, nous le portons jusqu'à son aboutissement.
Toujours.
Tant que tu n'as pas abouti, tu ne sors pas de ton cycle de manifestation.
Oui.
Tu reviens. Mmh. Même si toi, sur Terre, qui est, comme on dit, l'expression de cette intention, par moment, tu te dis, ouais, bon, ça va bien, hein, c'est ma dernière vie, hein, on n'en peut plus. Hein. Bon. Et ça. Ah, bah. Ce qui veut dire que, en fait, quand on évoque le sujet, on touche en fait à la science des sciences, c'est-à-dire la véritable, authentique astrologie ésotérique, qui définit toute la programmation de toute vie dans l'aboutissement de son dessein. Je ne vais pas faire la parenthèse, mais vous imaginez bien tout ce que recouvre et tout ce que porte en puissance de soutien et de compréhension cette science. Hein, le jour où elle va être restaurée sur la Terre, vous comprenez bien qu'un être qui s'incarne, eh bien, il pourra, ou ses parents pourront savoir, en fait, où il en est, et qu'est-ce qu'il a comme finalité de cette vie? Qu'est-ce qu'il entend assumer, appréhender, développer, soit au niveau de sa personnalité, soit au niveau de son champ de conscience, soit au niveau de son service à la vie? Alors, dans ce deuxième système solaire, eh bien, c'est essentiellement l'épanouissement de conscience. Ça veut dire quoi? La conscience, elle résulte de cette union. Quand j'emploie le mot sexuel, il est sacré, hein, c'est-à-dire en majuscule, et par définition, c'est l'union de vie grande par rapport à des vies plus jeunes. Hein, c'est ça, c'est l'union, l'union verticale. Hein, on se suit bien là-dessus. À partir de là, dans cette union sacrée, naît la conscience. Or, union de vie entre elles, il n'y a pas, on va parler de l'homme, il n'y a pas de soi-conscience. L'être retourne dans une conscience qui n'a pas la limitation de l'individualité. En fait, c'est pour vous faire saisir qu'il n'y a pas ton âme, il n'y a pas mon âme, il y a l'âme. Et que notre limitation de cette soi-conscience, elle résulte de la population de vie mineure que l'on a intégrée au fil de nos vies. À la fois sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Hein, ce qu'il faut bien savoir, voyez-vous, le progrès considérable pour la conscience humaine, c'est le jour où sera rendu public le fait qu'un être humain est une vie centrale qui prend en charge des vies mineures. Parce que je pense que ce serait de nature, pour des êtres, on va dire, suffisamment épanouis, de dire, bon, bah, ma vie, elle a un sens. Ma vie, elle a un sens à titre personnel, à savoir que j'ai à conduire en tant que... instructeur en tant que professeur, ces vies mineures qui se manifestent dans mon corps physique, les appétits physiques, dans mon corps émotionnel, les passions et pulsions, hein, et l'affectivité, et dans mon corps mental, les formes pensées, c'est-à-dire je dois exercer avec discernement la lecture de mon environnement, au sens large du terme. Alors, les êtres rayons ont trois aspects, comme toute vie. Ils ont une racine de vie. Ils ont un niveau de conscience qui, bien évidemment, est en supraconscience. Hein, et leur forme, eh bien, c'est ce souffle. Hein, et bien évidemment, ce souffle traverse des ensembles d'entités, depuis l'individu jusqu'à un pays, une sous-race, une race, un globe. Oui, bien. À partir de là, tant que ce monde sera imparfait, ça veut dire qu'il ne sera pas encore pure représentation de sa source solaire, donc de la racine de vie du logos solaire, il sera imparfait et les rayons seront imparfaits. Si les rayons étaient parfaits, les êtres humains seraient parfaits.
On serait plus... Je suis pas sûr de comprendre là.
Bah, c'est, ça veut dire que c'est pas de notre faute, tu comprends ça?
Ah oui, justement, ça va dans quel sens?
Il a botté en touche.
Ah bah,
il a
donc...
Si on était parfait, on serait plus là.
Bah, effectivement, comme tu dis, ça veut dire que chacun aurait pu rendre en fait son chantier en disant voilà, j'ai donc symboliquement s'agenouiller devant le Père qui est nôtre et dire bah, j'ai rempli mon contrat de vie. Bah, alors, pour reprendre ce que suggère
Joël.
Non, c'est pas sous cet aspect-là que j'allais le dire. C'est sous l'aspect que je le prends pour une boutade, à savoir que il y a pour notre situation actuelle un grand sacrifice de ces êtres. Il y a un grand sacrifice d'amour. Vous voulez un exemple concret?
Oui.
Le Bouddha, quand il a vu comment les brahmanes avaient coloré l'enseignement sacré, et bien sûr ça veut dire déformé, il a voulu les faire prendre conscience qu'ils n'avaient pas à réserver, je simplifie mais c'est pour que vous voyez la chose, vous n'avez pas à se réserver cette connaissance en disant on est un petit club très fermé, n'est-ce pas, entre nous. Bon. Et il a eu malheureusement une réaction opposée des brahmanes qui, au lieu de dire bah oui, hein, il n'a pas tort, ah dans ces conditions, eh ben on verrouille encore plus. Bon. Eh bien, cet avatar de sagesse, hein, l'avatar, c'est celui qui exprime purement le rayon dont il est investi. Eh bien, dans sa grande sagesse, Gautama a dit « Je demeurerai au contact de la terre, hein, non pas en tant qu'être, puisque là je vais ouvrir quelque chose de très ésotérique, lorsqu'un être est arrivé à sa racine de vie et qu'elle est épanouie, chacun de ces corps est une entité qui elle-même peut se reprojeter. Donc ça veut dire que en tant que vie pleinement épanouie, il a laissé une partie de lui-même sur Terre, qui demeure tant que il n'a pas ramené les brahmanes sur le bon chemin où il devait. Voilà. Et lui, il l'a pris, entre guillemets, pour une faute.
De sa part.
De sa
part. Oui. En disant, j'ai manqué de perspicacité, j'ai voulu aller trop vite par excès, entre guillemets, d'amour. Or, quand vous savez que le positif, c'est la lame de rasoir, et que d'un côté et de l'autre, c'est un écart. Le vrai positif, il est au juste milieu. Et à partir de là... Donc, c'est pour vous montrer que les seigneurs de rayon, qui sont, eux, près de la perfection, tant qu'ils n'ont pas eu le résultat sur leur champ d'application et d'expression, eh bien, ils sont imparfaits. Mais c'est la même chose pour nous. Tant qu'on n'a pas amené nos vies mineures à l'état de sagesse, on est au chantier. Alors, il est peut-être bon, de cerner les qualités divines qui émergent de cette grande source qu'on appelle le Logos solaire.
On est tous dans le même bateau, alors. Les rayons et nous.
Bah, si tu es traversé, tu es
parfait.
Comprends que.
Parfait quand on sera parfait.
Mais oui.
Comme nous, d'ailleurs.
Mais oui, mais c'est une question, si tu veux, de compétence. C'est une question de compétence.
Et est-ce que c'est du fait qu'il n'y a pas ton âme, mon âme, il y a l'âme ? C'est-à-dire, on est tous.
D'abord, comprends très bien qu'il n'y a qu'une seule vie. Simplement, je te renvoie au principe et au postulat de l'absolu. 1. Il n'y a aucune gloire à être cela. Donc, évolution au mérite. 2e postulat de l'absolu. Les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes.
Voilà.
En d'autres termes, une vie plus avancée, elle attend qu'une vie plus jeune... Je simplifie, lui dit pousse-toi de là que je m'y mette. Parce que la vie plus avancée ne peut pas quitter son poste tant qu'il n'y a pas la relève. D'où le terme c'est lire est précieux.
C'est lire, du verbe
élire.
Élire.
Absolument. Tu progresses dans l'évolution supérieure en t'élisant au niveau supérieur qui est devant toi. Donc, un homme céleste devient... l'âme céleste devient le logos planétaire, lui-même devient ensuite logos solaire, et lui-même devient logos cosmique. Pour montrer uniquement cette ligne d'évolution supérieure. Ce qui veut dire que, en fait, nous sommes une centrale d'énergie et que par notre capacité à recevoir et non colorer les énergies qui viennent sur nous, hein, et que nous avons à transmettre, eh bien, nous progressons. Alors, il faut bien comprendre que dans cette aventure, tu as les sept rayons, on va dire, niveau planétaire. Mais pour le logos solaire, il est la synthèse. Ah, puisqu'en fait, il a des sous-représentants. Mais ces sous-représentants ne peuvent supporter que un septième de sa puissance. Bon, mais par contre, ils vont grandir en synthétisant leurs frères. Alors qu'au début, excusez-moi l'expression, ils se détestent.
Tous les rayons entre eux ?
Au début, les êtres célestes, alors qu'ils étaient frères, se détestèrent. Mais c'est ce que l'être humain fait.
Oui, mais nous on sait, on se dit c'est normal, l'être humain.
Non, simplement, comme on dit, quand on est en bas de l'escalier, on pense qu'on est en haut. Voilà. Hein, c'est les multiples splendeurs de la vie. Et c'est là où justement, si vous voulez, il y a une très grande richesse à être en harmonie avec l'autre. Parce que chaque vie humaine détient quelque chose de précieux de l'homme céleste.
Oui, parce qu'autrement, on colore la nature du rayon, quand on la prend.
Absolument. Chaque fois, ouais. Ce qui veut dire, si tu veux, que selon, bien sûr, le principe, la loi cosmique de liberté, tu as obligatoirement les deux aspects, c'est-à-dire lumière-ténèbre. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre.
Dans des manifestations.
Or, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire, si vous voulez, qu'on reprend justement cette dualité du disciple, à savoir que d'un côté, il est l'être de lumière, l'âme, et de l'autre côté, il a la masse collective ténébreuse de son non-soi. Bon. Mais dans cette aventure des rayons, eh bien, les rayons ont à fusionner entre eux. Alors, comment ça se fait au niveau de l'individu ? Eh bien, vous prenez la table de marche avec les influences des rayons dans leurs différents aspects, et vous avez l'astrologie ésotérique. Ça veut dire que dans le début du règne humain, eh bien, l'être va d'abord être sous l'influence de l'aspect mère des rayons. Et il va lui falloir réunir les sept aspects pour aboutir à une personnalité claire. Puis, il va avoir à réunir les influences des rayons sous l'aspect âme-conscience, et vous avez l'influence à ce moment-là, plus particulièrement des 12 constellations, mais avec aussi le filtre des planètes sous l'aspect hiérarchique des planètes, c'est-à-dire les âmes des planètes.
Là, c'est-à-dire que dans ce que vous dites, l'influence au départ de l'aspect mère, donc là on est.
Il faut édifier les vécus, il faut édifier la personnalité.
Et là on est dans l'astrologie classique.
Orthodoxe, classique. Et qui a à peu près fait le tour, sauf elle a commis, mais c'est normal, elle a commis la bévue de tout amalgamer les autres aspects. Et à partir de là, il y a un brouillard de lecture. Parce que édifier les formes, la forme, donc les vies mineures, hein, les amener à les choisir de bonne qualité et autres, c'est un aspect qui n'est pas à confondre, même s'il y a une influence entre les deux, avec l'aspect de l'être, de l'âme. même si à un moment donné, bien sûr, c'est l'âme qui prend les rênes. Hein. Mais c'est pour bien, avec le mental humain, il faut bien distinguer pour justement bien voir les différentes interférences. Bon. Et ultérieurement, à ce moment-là, il y a l'influence de la racine de vie sur les deux formes, mais qui sont unies, c'est-à-dire l'âme qui est la première forme de la vie, de la racine de vie, et puis le non-soi qui est la forme, comme on dit, secondaire par rapport à la racine de vie. Et quand les deux sont fusionnés, alors à ce moment-là, la vie intérieure, la monade, la cisèle, clarifie son expression duel, mais dans la matière, donc dans le non-soi. Et donc là, il y a la relation lune-soleil. Hein ? À partir de là, l'être peut dire « Moi, Dieu, je suis matière. » Et cette expression révèle ma richesse de vie.
Parce qu'à ce moment-là, il y a déjà donc, là, vraiment le contact avec l'âme, la personnalité est alignée, et le Dieu peut se
avec la avec. Avec la présence terrestre. Mm-hmm. Hein, puisque la conscience de l'être, de son âme, occupe maintenant sa manifestation, quasiment en permanence. Hein, donc à ce moment-là, la vie, dis-moi, eh bien, j'ai cristallisé la matière, et elle est l'expression cristal diamant que je suis. Et donc les seigneurs de rayon, eh bien, expriment dans leur travail d'impression et de pénétration, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu pratiques de justes relations humaines, ce que tu vis en tant que conscience, en tant que relation, c'est une énergie de rayon.
De duquel ?
À ton avis, juste relation. C'est lié à l'amour, sagesse, c'est le deux. C'est ça qu'il faut que vous perdiez jamais, c'est que nous sommes en réalité un centre d'énergie de vie. Et que des myriades de souffles de vie nous traversent en permanence. Et nous sélectionnons ou des souffles de vie ou des souffles de mort. Quand vous agressez quelqu'un verbalement, vous utilisez l'aspect vice du rayon. Donc ça veut dire que lui trimballe encore, hein, j'en prends des mots, excusez-moi, mais c'est pour, bien saisir votre compréhension, eh bien, voilà, il utilise, il trimballe des souffles inférieurs de sa manifestation.
Par exemple, je me suis souvent posé la question, quelqu'un qui est quelqu'un de pas bien, qui fait des choses pas bien, c'est l'enfoncer encore plus que de dire c'est un traître, ou c'est un voleur, ou c'est un salaud, ou c'est un criminel, ou c'est un... Enfin bon, peu d'adjectifs. Il ne faut pas les mettre.
Alors, dans cet exercice que tu évoques, d'une façon générale, Eh bien, l'être qui est lumière a cerné son efficacité d'aide. Est-ce que je peux directement interpeller cet être? Est-ce que, uniquement par l'exemple, il va être à même de répondre? Ou est-ce que, malgré toute ma bonne volonté, le silence est préférable?
C'est d'accord.
Hein, parce qu'à un moment donné, l'aide peut être tellement en dépendance de ça que il va réagir à toute remarque qui évidemment va ulcérer, n'est-ce pas, sa personnalité.
Ça, je suis arrivée à ce niveau-là, mais je me dis par exemple, je me suis posé la question, je dois prévenir des gens de la mauvaise qualité de cette personne. Est-ce que je veux le faire? Mais émettre quelque chose.
Bah, là, tu peux soit être lu en critique, soit être lu en ressenti. Donc ça va reposer sur le niveau d'ouverture de tes interlocuteurs.
Et attention, parce que tu vas générer des formes de pensée qui sont de la même nature.
Ça dépend de ce qu'on y met derrière soi-même, c'est tout.
Oh, c'est dans la manière d'appréhender le problème. Hein? Je vous dirais qu'il y a un mode opératoire qui, quand on est vraiment dans une situation difficile d'échange, c'est d'essayer de trouver la solution de l'humour.
Ça ne marche pas toujours.
Hein? Mon problème n'est pas l'échange.
Non, mais tu peux le faire. Imagine, par exemple, tu as un enfant gourmand, hein, on prend un cas simple. Et puis, y a la tarte, comme on dit, il prend la moitié de la tarte alors qu'il y a quatre autres personnes, d'accord? Tu peux très bien lui dire, par exemple, ça ne te dérange pas si je ne prends pas ma part. Hein, c'est-à-dire de le faire avec l'humour. Parce que il n'aura pas la capacité de la spontanéité de renvoi. Tu vois, il va être un peu dérouté en disant, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Tu vois? Et je pense que, en fait, c'est d'essayer d'amener la compréhension de ce que tu veux faire passer, mais en prenant un peu de recul pour l'autre, tu vois, pour pas qu'il soit, parce que si tu es là, lui dit, ah, dis donc, t'as fini de te servir comme ça, forcément que... Parce que, n'oubliez jamais, l'art de l'harmonie, c'est de ne pas faire, de ne pas générer du négatif, mais c'est de ne pas en faire générer à autrui. Et ce qui est beaucoup plus difficile. Vous avez le quatrième plan. Le plan christique, bouddhique. L'énergie qui afflue s'appelle harmonie. L'énergie qui monte s'appelle conflit. Ce qui veut dire que le quatrième règne, lié numériquement aux quatre, quatrième plan, quatrième rayon. Et pour vous montrer un exemple du chantier du quatrième rayon. Eh bien, ce quatrième rayon doit harmoniser le feu et l'eau. Le non-soi et le soi.
Le feu, c'est
d'en haut,
hein? Et l'eau, c'est
d'en bas. En d'autres termes, le bas, les vies mineures, doivent amener l'essence au feu, pour qu'il y ait lumière. Eh bien, vous avez là le chantier fondamental du quatrième rayon, lié à la quatrième hiérarchie créatrice, les vies humaines. Et vous voyez très bien ce qui se passe dans notre humanité. Hein ? L'humanité se bat entre ces deux influences l'harmonie d'un côté, le conflit de l'autre. Eh bien, le seigneur de rayon doit amener 3/5 de l'humanité à être rayonnant d'harmonie. Vous avez là un chantier. Un chantier pour lequel nous sommes en prise directe. Parce qu'en fait, le seigneur du quatrième rayon, il progresse dans son contrat de vie en faisant émerger chez l'être humain la spontanéité, l'instinct d'harmonie. Puisqu'il doit amener l'être humain à être lui, et non pas l'expression en tant que prisonnier de son non-soi, dont la caractéristique est le conflit.
Surtout, c'est le rayon majeur.
Ouais. C'est celui-là.
Ben oui, c'est ça.
Ce qui veut dire que le dessein du seigneur du quatrième rayon, eh bien, c'est d'amener à ce que le quatrième plan puisse déverser son énergie dans le cinquième plan. C'est-à-dire celui en dessous, le mental. Oui. Donc le sujet, eh bien, si vous le reportez aux 7 rayons, vous allez voir les qualités qui vont être des vertus et les défauts, donc les vices. Voilà. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous peut très bien faire une introspection en disant, eh bien, au niveau émotionnel, quelle influence pourrait me situer ma ligne de rayon. Étant entendu que, vous savez que le corps émotionnel est sur la ligne 2 et 6. Hein. Donc à partir de là, vous arrivez à cerner. Et vous vous dites, bon bah tiens, attends, si je m'intéresse à cultiver ma responsivité à ma ligne de rayon qui me traverse le corps émotionnel ou le corps mental, hein. Bon, eh bien, ah oui, alors, ah ben, je vais d'abord regarder les vices que je pourrais avoir, l'aveuglement que je pourrais avoir. Et à partir de là, qu'est-ce que je dois cultiver ? Et c'est intéressant parce que on peut procéder dans la maîtrise de nos vies mineures de deux façons. Soit on s'oppose dans les 12 secondes à cette réactivité instinctive qui émane de nos habituelles vies mineures, hein, comprenons bien que devant une situation donnée, nous avons nos vies mineures qui s'expriment en instinct spontané de réponse, en disant, si vous voulez, c'est en d'autres termes, c'est, tu sais, on a l'habitude de pratiquer comme ça. Il traite de con, tu dis, bien sûr, que c'est un con. Hein. Bon. Non, mais c'est pour vous faire comprendre que, en fait, dans la première partie des 12 secondes, vous avez d'abord le club qui monte au créneau, en disant, ouais, on fait comme ça, hein, on a l'habitude, hein, hein. On est chez toi, on t'occupe. Hein. Bon. Et c'est les 12 secondes qu'il faut que... Mais ça, c'est, comme on dit, le fait d'être vigilant pour serrer la vis, voilà. Mais vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire partir de... Là, c'est l'aspect conflit que vous essayez de résoudre, et vous pouvez partir de l'opposé, c'est-à-dire de cultiver les qualités divines de chaque plan supérieur, le vrai, le beau, le bien, le pur, ouais. Il y a deux façons de procéder.
On peut utiliser les deux.
Absolument. Oui. Absolument. Voilà. Simplement, il faut bien comprendre que dans cette vigilance, au fur et à mesure, nous évacuons les vies mineures, les atomes lourds de nos corps, qui nous plombent. Si bien que notre ciel se clarifie.
C'est parce que nous faisons, nous permettons en pratiquant de cette façon-là, de la rentrée de la, du feu, en fait, et le feu, il transforme complètement.
Oui, c'est-à-dire que. Bah oui, parce que, en fait, on effectue un processus qui unit les deux pôles de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on reprend les. Si on reprend les plans, le plan mental, c'est le corps physique de l'homme céleste. Bon. Sa réalité, c'est le vrai. Donc il est clair, il est limpide ce corps. Ça veut dire que tout ça nous a été donné à l'état originel. Qu'est-ce qu'on attend pour ressembler à celui qui, en son temps, nous a donné sa nature et qui est fondamentalement le clair, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, le pur. Mais comme il restait du premier système solaire des vies qui n'avaient pas pu être élevées, eh bien, dans ce deuxième, il a fallu aller au charbon.
Et donc c'est à nous de nous y coller.
Voilà, pour clarifier. Et pour mieux s'occuper d'elles, eh ben, nous les avons incorporées.
Le petit chat que tu caresses tous les jours.
Non mais je commence à comprendre parce que tout se recoupe.
C'est la finalité, c'est tu.
Je mets du temps, mais.
Non, c'est pas gênant parce que.
Tortue, moi,
non, mais ça, alors là, continuer à être tortue, c'est la meilleure méthode. Ah, mais non, mais c'est pourquoi on repasse le rôle de celui qui présente, c'est justement de passer par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest, dans sa présentation, parce qu'à un moment donné, bah, comme on dit, chacun place son peuple en disant « ça y est, j'ai intégré ça ». La présentation des qualités de ces vies célestes, c'est de nous dire « voilà ». Ce vers quoi nous devons devenir.
Hein? Mais nous devons tendre vers.
C'est-à-dire que.
Tendre et y aller, en fait. Hein?
Comme au sens mathématique.
Non, mais attends. Ça, tu, quand tu pratiques le beau, hein, donc c'est, comme on dit, c'est un concept qui recouvre, en fait, toute la qualité des relations. Hein. Hein, c'est au sens où tu dis, c'est un bel être. Bon. Eh bien, à ce moment-là, tu es traversé par le Seigneur d'harmonie. Il est en toi. C'est pour ça que Maitreya vous dit il y a 2000 ans, quand vous pratiquez le juste relation, eh bien, je suis en vous et vous êtes en moi. C'est un avatar du rayon d'amour. Au même titre que le Bouddha était un avatar de sagesse. Dans la mise au point de notre compréhension, en tant que centre d'énergie, nous sommes en permanence traversés par des énergies qui émane de vie d'en haut. Quand vous pratiquez l'harmonie, le Seigneur d'harmonie peut vous traverser. À l'inverse, vous êtes traversé par le conflit, c'est-à-dire en fait des pollutions, à savoir que le Seigneur de rayon, pour bien illustrer, il pénètre le chantier. Et il a bien évidemment l'onde de choc en retour, l'écho. Bon, et la matière, eh ben, lui renvoie, comme on dit, ou une capacité de réceptivité, donc elle se purifie elle-même, ou elle repousse, et à ce moment-là, il y a coloration. C'est pour ça que c'est pas facile, pour revenir à ta remarque de tout à l'heure, ce n'est pas facile l'échange, on va dire profitable, parce que l'intention de bien faire ne veut pas dire que tu auras le résultat escompté. Tu vois ?
Parce que tout va dépendre de la réaction de l'humeur.
Voilà, donc ça veut dire que là, il faut avoir une habileté relationnelle, hein, en disant je dois mettre des gants ou je dois attendre ou. Voilà.
C'était pas ça ma question, c'était pas au niveau de la relation directe, j'ai fait l'analyse.
Mais c'est pareil.
C'est d'en parler, une certaine.
Mais c'est pareil, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. C'est pas, le sujet, il n'est pas forcément direct la personne concernée. Mais imagine par exemple que tu dois dire à un frère ce qui est dérangeant chez sa sœur. Tu vas lui dire avec des gants ou tu vas lui envoyer dans la tête ?
C'est une agression. De toute façon, mentalement déjà c'est une agression.
Oui, mais est-ce que le fait d'émettre un défaut de quelqu'un, de l'émettre verbalement, accentue ce défaut ?
Non,
pour ne pas te laisser sur cette approche. Là, on touche quelque chose de très important dans ce qu'on appelle l'innocuité. L'innocuité, ça veut dire ne jamais nuire à personne, ni en parole, ni en acte, hein. Ni en pensée. Alors, on touche à quelque chose de capital, à savoir critique ou analyse. Notre pensée, c'est de l'énergie. Donc, elle est projetée sur la personne désignée. Si nous sommes en critique, nous avons l'effet inverse sur lui. C'est-à-dire qu'au lieu de lui apporter un environnement magnétique pour essayer de lui apporter une bonne lecture de ce qui pour l'instant est pour lui ou aveuglement ou brouillard, si tu analyses, c'est-à-dire sans critique, mais en faisant apparaître à ta réflexion, à ton échange, le problème dans lequel il est empêtré, cette analyse, elle est télépathiquement projetée et elle est lumière autour de lui. Donc tout est une question de bienveillance. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, tu as tendre l'autre joue. Comment l'aider à devenir meilleur ? Ça, c'est dans la nature du plan bouddhique. Ce qui veut dire que tu dois d'abord saisir le profil de ton ou tes interlocuteurs, et d'avoir cette démarche de dire « bon ben, ma présentation, je la conduis avec beaucoup de respect de l'autre, mais il a besoin d'aide. Or, si on ne peut pas lui dire directement parce que, voilà, eh bien par la pensée, et c'est la voie du silence. » Parce qu'en fait, tu passes par ton être intérieur, et comme il n'y a pas ton âme, mon âme, son âme, donc son être permanent, va te dire « donne-moi un coup de main parce que Karin, il a du mal à comprendre. » Bon, Karin, il a du mal à comprendre. Voilà toute l'habileté spirituelle, hein, le terme spirituel étant lié à l'amour.
Mais Anne allait un peu au-delà, puisque en fait, elle voulait savoir si le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, de la mettre en garde sur la qualité de l'autre être, ça pouvait lui apporter.
Et à la limite, c'est pas une mise en garde qu'il faut faire, parce que justement, il faut poser sur la table. Et cette manière de présenter, si vous voulez, est fondamentale. Parce que si vous posez sur la table, en fait, vous analysez une difficulté de l'autre. Mais vous n'êtes pas là à jouer les censeurs. Hein? Et donc, c'est dans ta manière de présenter le problème, tu vois. Hein? Tu peux très bien dire, je suis interpellé par ce comportement parce que il ne montre pas un bon équilibre relationnel, tu vois. Enfin, mais il faut poser le problème. Et puis, tu auras la manière dont les autres ou l'autre voit la chose. Et à partir de là, voilà. Tu dis, moi, ma préoccupation, c'est comment l'aider à devenir meilleur. Il a sa partie pleine du verre, et puis pour moi, il a cette partie-là qui gêne encore.
Alors en fait, c'est pas si facile, hein, concrètement, parce que moi j'essaye, et parfois.
C'est plus facile. C'est plus facile d'y aller au conflit, hein, la séparativité. Hein. Hein. De toute façon, comme on dit, la formulation est très simple. Hein. Oh, quel con.
Il y a une chose qui est aussi extrêmement puissante, c'est la pensée.
C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la voix du silence. Donc, s'il n'y a pas possibilité, il y a la voix du silence. Mais c'est pour ça que les initiés.
Tu peux faire silence, mais si ta pensée est critique.
Non, mais je veux dire, un silence positif. Et quand je dis la pensée, c'est pour envoyer plutôt le positif à la personne, pour qu'il donne le meilleur.
Les initiés sont appelés les silencieux. Parce que le plus grand silencieux, c'est le Père. Ça fait 18 millions d'années qu'il couvre ses enfants de son influence bienveillante en attendant qu'il soit pénétré par cette influence. Bon. Mais si on prend le Logos solaire, eh bien... il a, comme le Logos planétaire bien évidemment, il a sept esprits devant le trône, c'est-à-dire les sept rayons. Parce que ces sept rayons amènent la lumière blanche chez l'être, ça veut dire l'état de diamant. Ça veut dire que ces sept aspects doivent être en équilibre pour être la parfaite expression de celui qui donne la vie au système solaire. On ne peut pas être que sur un rayon. Ah, et ça, c'est pas à perte de vue, parce que ça veut dire, si vous voulez, qu'au niveau de... des champs de toutes ces énergies qu'on appelle l'espace astrologique, eh bien, les 12 constellations, les influences doivent être synthétisées en 7 rayons.
En fait, chaque être humain reçoit les énergies des 7 rayons, ou parfois on reçoit que...
Tu vas les acquérir, tu vas te placer sous leurs influences au fur et à mesure de ta traversée du règne humain. Donc, quand un être s'incarne, eh bien, il va se placer sous l'influence de tel ou tel rayon qui lui fait, comme on dit, imperfection actuellement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Imaginez quelqu'un qui se soit épanoui sur la ligne père, c'est-à-dire l'amour-sagesse, l'harmonie et l'idéalisme. Et puis quand il remonte, en tant qu'être, il dit « Mais je me fais bouffer, là. Mais je me fais bouffer, je suis le vrai mouton. Je suis tellement bon à tout donner que je ne suis pas à l'équilibre. » La prochaine fois, il ne va pas prendre de rayon père. Et vous allez le voir à pattes en disant, disons celui-là, qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est rude. Vous ne pouvez pas juger, parce qu'en fait, il a peut-être besoin justement d'en équilibrer son truc. On ne peut pas juger.
Il va vous paraître exigeant, sévère, haute. Il manque d'amour. Dans la réalité, il est complètement débordant.
Oui, mais
donc
le but...
il a besoin de.
Oui, mais le but n'est-il pas de pouvoir vivre les, justement et d'éliminer tous les aspects négatifs de chaque rayon.
Il y a le travail.
Ah oui, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que actuellement, ce qui nous est donné là, c'est la situation présente. Donc, vous avez des êtres qui, bien évidemment, vont éliminer, effacer l'aspect inférieur des rayons. Mais l'être... Essayez de comprendre que... quand Maitreya passe à travers vous, en tant qu'énergie de rayon, il récupère l'atmosphère qu'il a traversée. En d'autres termes, il a ouvert la porte. Et puis, il est passé dans quelque chose qui n'est pas forcément blanc-bleu. Il a donné sa vie. C'est pour ça qu'il porte sa croix. Vous vous rendez compte le challenge qu'il a ? Il se sacrifie au péril de l'humanité. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le Graal, eh bien, dans son aspect inférieur, c'est la coupe dans laquelle tous les êtres d'amour et de sacrifice ont versé leur sang pour sauver l'humanité. C'est une autre façon de lire les choses. Il faut une abnégation, hein, pour servir les hommes. Si on n'a pas cette réalité d'être dans la main du Père et de servir la vie et, hein, pour sa gloire et la gloire du Père, on risque d'avoir des moments difficiles. Et c'est ça qui sauve, parce qu'en fait, l'être est impassible. Désintéressé et impassible.
Donc c'est par l'attraction, en fait, notre attention d'attraction, qu'on va pouvoir épurer, je dirais, le rayon et le rendre...
Tu as la réalité de ce rayon, qu'on appelle l'amour, mais qui dans sa réalité cosmique s'appelle le rayon d'attraction et de répulsion. C'est donc dans son application de la forme, ce qui positionne toute dimension d'atome. Bon. Mais la finalité, c'est bien de comprendre que vous avez une vie grandiose qui a pulvérisé sa vie pour donner vie. Bon. Et il y a un processus de synthèse. Il faut faire la synthèse. Quand tu traverses le règne humain et que tu te disciplines aux lois de la vie, tu rentres dans ce cycle de synthèse. Et donc, cette préoccupation, je dirais, d'épurer tes vies. Parce que il faut que l'expérience acquise, eh bien, te permette de voir clair dans ce que tu as comme aboutissement. Et c'est là où on est aidé justement par le Père, parce que lui, en tant que racine de vie, il dit maintenant je peux en fait attirer. Et donc cette attraction, il va y répondre, le Père vient à toi, dans la mesure où tu es à même de t'ouvrir à ces réalités qu'on appelle le vrai, le beau, le bien, le pur, parce que c'est sa nature, et sa nature, c'est de l'énergie. Alors, vous avez dans le sujet présenté, eh bien, les caractéristiques à la fois du dessin de chaque rayon, et les caractéristiques des qualités, c'est-à-dire les vices et vertus. Je pense qu'on a déjà appréhendé l'aspect vice et vertu. Hein, on l'a vu, ça. Hein. Mais il n'est peut-être pas inutile de revoir le sujet. Donc on ne va pas aller à la première page, mais on va aller tout de suite chercher les vices et vertus.
De toute façon, on n'a pas vu les rayons. Donc...
On n'a pas vu les rayons.
Ah, on va aller voir pour la... à partir de la prochaine fois.
Oui, ben, on prépare, là, je peux finir.
Oui, c'est ça.
Comme tous en boîte.
Voilà.
Donc on s'en va, on va d'abord voir les qualités, hein, le vice et vertu des rayons. On est à la page 24. Bon, le principe des sept rayons qui vont se refléter dans notre monde terrestre sous forme de sept couleurs, sept notes de musique. Hein, vous voyez bien ? Bon, eh bien, en fait, tout ça, c'est les réponses de la forme à l'influence de ces énergies. Alors, en fait, si vous voulez, vous avez trois, ce qu'on appelle trois rayons d'aspect. Alors, si l'on prend la vie, fondamentalement, à partir du fait que l'absolu émet des vagues de vie, donc toute vie aura une racine de vie dans l'absolu. Mais répondant au premier postulat de l'absolu, il n'y a aucune gloire à être cela. Cela va entraîner l'échelle au mérite et par conséquent, la classification de progression dans l'évolution en 12 hiérarchies créatrices. Depuis l'évolution microcosmique. Ah, il n'y a pas un truc qui est à l'air. Depuis l'évolution microcosmique. Mais, pour précision, avant que les poussières de vie ne soient attirées dans la plus basse des hiérarchies, la septième, si on tient compte simplement des sept hiérarchies qui sont sur le plan physique cosmique et qui recouvrent les particules qu'on appelle ions, électrons, hein, atomes. Eh bien, ces vies qui répondent d'une première réponse à l'attraction, donc à l'évolution, même si c'est en involution, il existe des poussières de vie en dessous. Mais elles n'ont d'autre capacité que de dormir.
Ça va quoi alors ?
Ben elles attendent. Elles attendent.
C'est la file d'attente ?
Non, non, c'est-à-dire que comme elles ne répondent pas.
Il faut quoi ?
Ah ben, un jour, elles vont être là, elles vont dire oh, ah bon ? Il y a quelque chose à faire ? Je caricature, hein. Mais si tu veux, elles répondent à rien. Elles dorment.
Mais je ne comprends pas, en fait. Comment on sait qu'il y a ces vies-là, si elles dorment ? Elles ne se manifestent pas, alors ?
Elles ne rentrent pas dans l'évolution hiérarchique. Elles sont consciemment mortes, inertes.
consciemment.
Elle ne répond à rien.
Ah, mais non, pas de conscience.
La conscience est liée à la réponse, au sexe, mmh. à l'union. Hein? C'est-à-dire que une particule, hein, un ion, bah, n'attire pas, comme on dit, une particule. Au sens où les ions attirent, mais il y a des particules qui ne répondent pas.
Donc ces particules-là n'ont pas de conscience.
Elles ne sont pas entrées dans comment expliquer ça? La nanoconscience.
Et alors elles viennent d'où, elles?
Ah ben c'est des poussières cosmiques. C'est des poussières cosmiques. Sans conscience.
Ah ben, oui, mais... Elles se mettent sur un être ou un autre sans.
Quand tu sais, par exemple, que nos physiciens ont saisi qu'un atome a 36 000 fonctions conscience-mémoire, dans une situation donnée, eh bien, un atome peut choisir, peut se distinguer en réponse de 36 000 façons. L'évolution implique la réponse de conscience, même si elle est, comme on dit, infinitésimale. Tout ce qui a forme a une conscience. Et eux, ils répondent à rien. C'est de la poussière. Mais des nanopoussières.
Tu penserais quand je ferai mon ménage.
Ah non, ça t'es là, c'est déjà du macro, là, oui, par rapport à ces nanos.
Ça, c'est du nano. Ouais.
Ça, on est dans des nanoconsciences.
Mais non, il n'y a pas conscience.
Ça, ben oui, mais j'essaye de vous faire comprendre qu'elles répondent à rien. Elles répondent à rien. Non, mais c'est pour vous faire saisir qu'on va de l'infiniment, infiniment, infiniment petit, et qu'à un moment donné, il faut déjà arriver aux trois règnes microcosmiques pour que l'évolution commence, comme on dit, à... Même si dans un premier temps, c'est encore involution.
Oui, donc,
c'est
oui,
encore, c'est mais ça. Elles répondent. Non, c'est ça. Elles vont descendre, s'agglutiner dans la matière.
Mais elles sont très près de l'absolu. C'est les plus proches de l'absolu.
Ah bah oui, bah ça, voilà. Hein. Ne te fiche pas là-dessus, bon, t'arriveras.
Compris, ça veut dire qu'elles sont positives alors, si elles sont positives.
Serais-tu en nanoconscience?
En fait, il y a beaucoup de poussière. Est-ce que ces poussières-là, il y a encore d'autres poussières ou pas? Ou là, on a atteint le bas.
En fait, si tu veux, quand on parle de poussière, on parle déjà du processus qui a un élément au centre qui a attiré. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de constitution de la matière.
Oui, enfin, je veux dire ce que je n'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave.
Mais vas-y.
C'est qu'est-ce qui va les faire se réveiller? Est-ce qu'elles ont pour but de se réveiller?
Le temps.
Et est-ce que nous, enfin, l'action de l'être sur lequel, autour duquel il y a ces poussières, qui ne sont pas encore conscientes, et ça va influencer le réveil de ces poussières dans conscience?
Indirectement, parce qu'en fait, c'est la hiérarchie la plus basse qui est concernée.
C'est l'évolution. L'évolution va permettre justement à ces consciences de les. Ouais.
Oui, parce que plus un corps céleste devient rayonnant de lumière, plus il a un processus attractif.
D'accord. Et alors, est-ce que l'être, il est influencé par ces poussières ou pas?
Il a certainement une relation, puisqu'il n'y a qu'une seule vie.
Oui, mais comme elles ne sont pas conscientes et qu'elles ne réagissent pas, est-ce qu'elles ne réagissent pas à ce que l'être pense, dit et fait, mais quelle est la relation?
Alors attends, je vais te l'exprimer autrement, c'est-à-dire qu'on va grossir démesurément à la loupe, si tu veux bien. Le Père, l'homme céleste, Sanat Kumara, il est une sphère de lumière irradiante, rayonnante, au sens où, tu vois, il attire à lui. Et puis, quand il va dire, bon, ben moi, j'ai fini mon contrat, tu vas avoir deux tiers de l'humanité qui, ils n'ont pas répondu comme il fallait. Et ben, tu transformes ça dans le monde des nanos, et puis tu as le même phénomène. Tu as des poussières qui attendront, comme on dit, un autre long cycle pour... voilà, ils ont le temps. De toute façon, ils dorment dans l'absolu. Alors, c'est pas gênant, hein. Ils savent même pas qu'ils sont sortis de l'absolu.
D'accord. Donc en fait, finalement, ils n'influencent pas l'être.
Ben, ils ne sont pas sous influence de l'être. Hein? Mais il n'en reste pas moins que...
Nous l'avons écrit.
Tu as par là le phénomène de l'infini. Parce que, reprenons nos deux tiers, deux cinquièmes de vie humaine qui n'auront pas saisi l'opportunité de l'évolution supérieure. Ils vont être mis en attente. Et puis quand un autre logos planétaire va dire « maintenant c'est à moi, comme on dit, de repartir au... ah ben, hey, on peut venir
Donc en fait ça ne s'arrête jamais.
Ça ne peut pas s'arrêter.
C'est sans fin.
Ça ne peut pas s'arrêter parce que l'absolu, absolue conscience, c'est le mouvement, la respiration absolue. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin.
Mais il y a des cycles.
Oui, et puis pour la vie, non mais on peut extrapoler, pour la vie qui aujourd'hui est humaine, elle est passée donc par tout ce processus pour arriver à une individualité de conscience. Mais comme la manifestation est pensée, le fait que tu progresses, que tu intègres, je dirais, l'état de conscience des vies grandioses qui nous ont précédés et qui ont ouvert le chemin, tu es aspiré dedans. Et ça va t'entraîner à un jour participer à la vie d'un univers, de cet univers, tu vois, c'est-à-dire que c'est sans fin puisque c'est issu de la pensée. Est-ce que tu peux concevoir une limitation à l'esprit ?
Une
limitation à l'esprit.
Il n'y a jamais eu de commencement, tu dis ?
Pour l'absolu, non. Vous ne pouvez avoir une toute petite idée de l'absolu que si vous distinguez le silence qui est le père mère de tous les sons. Tout sort du silence, tout retourne au silence, donc tout a une durée d'existence, d'accord ? Et le silence n'a rien à voir avec les sons. Donc l'absolu ne sera jamais, comme on dit, accessible par lui-même. Puisque toute vie, qu'elle soit grandiose, gigantesque, peu importe, elle est sortie de l'absolu. Et elle n'a d'autre contact que d'y rentrer. Mais quand elle en sort, elle n'a plus que sa racine de vie dans l'absolu. C'est pour vous montrer qu'à partir de là, eh bien, l'évolution des vies grandioses, de toutes les existences, je bafouille intentionnellement dessus pour vous montrer le phénomène de sortir, cette sortie résulte d'une pensée qui a élaboré un dessin qui est connu depuis l'origine, c'est-à-dire avant l'existence, et qui par conséquent est à jamais à l'infini en développement. Nous avons en nous un manque incommensurable à l'infini de l'absolu. Ce qui nous mènera dans une quête éternelle. Mais si on prend la conscience de vie au niveau du minéral, qu'on fait comparaison avec notre champ de conscience à nous, on se dit que, oui, puis il y a surtout, comme on dit, certainement des splendeurs qui attendent.
Il ne faut pas se prendre la tête. Hein.
Mais il est peut-être opportun pour nous, eh bien, d'avoir des repères quant à les développements, l'épanouissement, les qualités de la vie qu'ont intégré ces vies qui nous sont grandioses.
Il y a quand même quelque chose qui ressemble à de la conscience dans le minéral ou le végétal ou l'animal.
une vie plus avancée, incorporant des vies plus jeunes, mineures. Dans la vie du minéral, tu as la vie comme telle et les hiérarchies inférieures qui, par leur réalité d'atomes, d'électrons et d'ions, sont agglutinés. Si tu prends un minéral, tu le regardes sous un microscope électronique, tu vas voir des milliards d'atomes. Bon. Le microscope n'est pas encore à même de trouver la vie centrale, puisqu'elle n'est pas en matière dense, elle est en éthérique. Donc tant qu'il n'y aura pas des lunettes éthériques, ils ne verront pas l'unité centrale du minéral. Est-ce que vous saisissez? Bon, et à partir de là, vous répétez ça pour les autres règnes. Mais c'est pour vous faire comprendre que dès l'instant où une vie, aussi petite, aussi jeune qu'elle soit, donc septième hiérarchie créatrice, quand elle se manifeste, quand elle appelle la manifestation, elle appelle donc des poussières, hein, des nanovies, qui sont sa manifestation. Ce qui veut dire que tous nos règnes, en fait, c'est l'unité centrale qui a attiré plein de vies mineures. Hein, et il faut savoir que dans l'évolution, nous sommes passés par le règne minéral, et nous avons un relationnel avec le minéral, au sens où nous côtoyons dans notre corps énergétique le minéral, hein, l'âme du minéral, idem pour le végétal avec notre corps astral, idem pour l'animal avec notre unité mentale. Donc nous avons intérieurement tout l'acquis de traverser de ces règnes. Et comme la vie est une, eh bien ça nous met en relation avec ces règnes. Donc l'homme est une synthèse des règnes de la nature. Ce qui veut dire que quand tu gères ton corps mental concret, quand tu gères ton corps astral, quand tu gères ton corps éthérique, et que tu appréhendes, tu nettoies ce qui est illusion, ce qui est mirage, ce qui est maya, c'est-à-dire les pollutions, eh bien, tu soulages l'âme du règne animal, l'âme du règne végétal, l'âme, voilà. Parce que la nature, dans sa réalité, l'homme est mon Dieu.
On est tous reliés, en fait.
Il n'y a qu'une seule chose qui n'existe pas dans l'univers, c'est la séparativité.
Mais oui, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui ont conscience de ça.
Mais on est bien d'accord, c'est pour ça que nos frères plus anciens attendent avec impatience que des êtres humains deviennent ce qu'ils sont. Nous sommes en liaison directe avec les évolutions qui nous sont inférieures. Le monde microcosmique, son septième principe, est dans l'homme physique.
Tu veux redire ça ?
L'homme physique. Hein, double. Et le septième principe de l'évolution microcosmique. Je précise. Ces particules, donc ces vies mineures, au même titre que dans le minéral, l'aboutissement de la forme de manifestation du minéral va être les pierres précieuses, hein ? Eh bien, dans l'aboutissement du microcosme, la perle rare, l'organe le plus aboutissant, excusez-moi l'expression, de ces particules, c'est l'œil humain.
C'est l'œil.
Oui, notre œil.
L'organe le plus...
Les éléments microcosmiques atteignent la perfection de leur réalisation dans ce qu'on appelle l'œil humain.
L'œil, le vrai, pas le troisième œil.
Mais oui. L'œil physique.
L'œil physique.
C'est l'expression de la
mais perfection. Peut-être que le troisième œil, comme tu dis, est une porte de passage pour eux. Ah bah, il faut bien qu'il y ait la porte de sortie. Hein. Mmh. Ah. Mmh. Oui, c'est moi
Bernard, qui arrête. Tout à
façon, non. Oui, je vais là.
Et en fait, je pourquoi c'est l'œil ?
Hein ?
C'est
comme ça. Si tu veux, toi, créer une innovation en disant c'est mes ongles d'orteil, tu fais tes ongles d'orteil. Hein.
Évidemment.
La matière des yeux.
Tu es là, tu dis, regarde ça, la perfection. Marc, il y en a beaucoup, ils prennent le nombre, ils importent leur perfection.
Autre chose, oui. Bon, Bernard, on stoppe, on arrête.
Ah, déjà ?
Oui, oui.
Ah, bah,
oui,
j'ai pas rattrapé, hein, je suis comme le
tout à l'heure.
Heureusement.